Il est mort, Jim, lu par l'auteur, épisode 82, chapitre 12. Au petit matin d'une de ces nuits, je m'éveillais avec le souvenir précis de mon rêve. Je me levai sans bruit et écrivis, sur le premier livre que je trouvais sur la table de mon bureau, Petit traité de l'histoire des religions de Frédéric Lenoir, le mot « Ezema ». Je n'en connaissais pas l'orthographe. Dans mon sommeil, je m'étais entendu dire « Je m'appelle Ezema ». Je parvins à me souvenir des mots suivants qui disaient que j'étais sur terre pour informer les hommes. Lorsque le jour se leva, je faillis classer l'événement parmi les rêves qu'on oublie, car ils sont justement des songes. Puis je me dis « Que fais-je donc d'autre que chercher à informer les autres ?» En même temps que moi-même, avec cette recherche sur la vie dans l'au-delà. Si ce nom, Ezema, ou quel que soit son orthographe, était un message, il fallait essayer d'en comprendre le sens. Je le déclinais sur un carnet, avec toutes les orthographes possibles, et le passais au crible d'Internet. Je trouvais une quinzaine d'écritures possibles, sans résultat tangible. Ezema était un nom hébreu. Ezema, en Algérie, désignait une large ceinture d'ornement, symbole de la féminité et de la fertilité. Je me promis de continuer ma recherche. J'en parlais à Lisangela. Je lui dis que j'avais parfois senti des éclairs de lucidité dans mes rêves, avec l'envie d'écrire les mots qui me venaient à l'esprit avant qu'ils ne disparaissent. Je n'y arrivais jamais. Ce devait être la première fois. Je pensais qu'elle me dirait qu'elle avait les mêmes impressions et m'étonnais de sa réponse négative. On chercha dans le livre tibétain de la vie et de la mort les passages qui avaient trait au rêve. Je recopie un paragraphe. Dans l'état de rêve, nous avons un corps analogue, le corps de rêve, avec lequel nous vivons toutes les expériences de la vie onirique. Entre le bardo du moment précédant la mort et le bardo du devenir, se situe un état très particulier de luminosité ou claire lumière. Tout le monde le traverse, mais très peu parviennent, ne serait-ce qu'à le remarquer, sans parler d'en faire pleinement l'expérience, car il ne peut être reconnu que par un pratiquant accompli. Ce bardo correspond à la période qui se situe entre l'endormissement et le début de l'état de rêve. Je me rappelais que le mot bardo désignait une sorte d'état intermédiaire entre la vie et la mort. J'étais loin d'être un pratiquant accompli, mais cette impression de lucidité et de fulgurance pouvait être qualifiée de claire lumière. J'avais par exemple déjà senti que m'était venue à l'esprit l'intrigue complète d'une histoire et que, si j'arrivais à m'en souvenir, elle serait bien mieux que ce que je ne pourrais jamais créer dans mon état normal. Et je n'étais pas le seul. On m'avait au moins une fois raconté la même histoire. Je lus une autre phrase de Sogyal Rinpoche qui faisait parfaitement écho à ce que je venais de lire. « Quand nous nous endormons, les sens et les voiles les plus grossiers de la conscience se dissolvent, et graduellement, la nature absolue de l'esprit, nous pourrions dire la luminosité fondamentale, est brièvement révélée. » C'était justement dans des phases de sommeil peu profond, des siestes et des éveils matinaux, que j'avais eu ces sensations. Je repensais à l'analogie entre la mort et le rêve, qu'avait si bien exprimé, en tout cas si poétiquement, Allan Kardec avec son « Pourquoi avez-vous peur de la mort si toutes les nuits vous mourrez ?» D'après le livre tibétain de la vie et de la mort, l'endormissement est semblable au moment précédant la mort. Dans ces deux moments, l'on possède un corps mental clairvoyant et extrêmement mobile qui traverse toutes sortes d'expériences. Quelque temps après, j'eus subitement envie de remettre le livre tibétain de la vie et de la mort dans ma bibliothèque au fond d'un rayonnage. Je crois que j'eus une réaction bien ingénue pour un homme de 59 ans qui se croyait lucide sur la nature humaine. Ma vieille haine de la malhonnêteté refaisait surface. Mais il est vrai que les accusations concernant Sogyal Rinpoche, que je lis par hasard, cadraient mal avec la grande humanité qu'il y avait dans son livre. Bêtement, je consultais Internet avec le regard de l'admirateur candide. Quel homme se devait être ce Sogyal Rinpoche? Un tel humanisme, une telle profondeur se dégageait de ses textes. Patatras. Plusieurs articles, dont l'un était rédigé par un journaliste d'un hebdomadaire qui n'avait pas la réputation du sensationnalisme, parlait d'un gourou vulgaire, capricieux et féru d'humiliation publique. Pour couronner le tout, il était poursuivi pour abus sexuels. Il pouvait bien s'agir de calomnie. Je m'étonnais cependant que les forums bouddhistes que je consultais jettent l'anathème sur les naïfs qui, comme moi, osaient signaler la distance entre les écrits et les actes qu'on lui prêtait. L'un de ses modérateurs tentait de faire taire les intempestifs en leur disant qu'ils faisaient du tort au bouddhisme et que c'était leur ego qui parlait, les éloignant plus encore de l'éveil. Quoi ? Il fallait taire ses pratiques ? On était dans une secte ? Je n'avais jamais pensé qu'un artiste devait ressembler à son œuvre. Le temps, heureusement, se charge de séparer les hommes de leur création. Je n'avais pas de scrupule à lire Céline et son triste d'un château l'autre ou son flamboyant voyage au bout de la nuit, et si j'avais compris quelque chose au philosophe, je n'aurais pas hésité à entreprendre Heidegger. Toutefois, ni l'un ni l'autre ne parlait de la nécessité de la compassion, n'insistait sur l'importance des actions positives auprès des autres.